Des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Academy.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Pour Rayon Gamma Facteur Epsilon, nous recevons aujourd'hui Stanislas Dehaene, qui est membre de l'Académie des sciences, qui est professeur au Collège de France pour la chaire de psychologie cognitive expérimentale, mais qui est aussi, et ça nous intéresse peut-être autant la matière, conseiller scientifique du programme Cerveau et Éducation de l'OCDE. Alors, bien sûr, les langues anciennes, c'est une drôle de question à poser à un spécialiste de la cognition. Mais est-ce que, à cette époque où on discute tant d'éducation, de ce qu'on enseigne aux enfants et de la manière de l'apprentissage de la connaissance, après les expériences de lecture globale qui ont, dit-on, changé les synapses, c'est un grand, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, les connexions du cerveau, peut-être. Est-ce que les langues anciennes ne seraient pas une manière de contrebalancer, dans le cerveau, peut-être au niveau scientifique, les dévastations de lecture globale?
Il me semble qu'il y a beaucoup d'aspects pour lesquels les langues anciennes pourraient être intéressantes. Effectivement, on apprend des connaissances à plusieurs niveaux lorsqu'on travaille sur les langues anciennes. On apprend parfois un alphabet nouveau, c'est le cas du grec. Moi, j'avais appris à l'époque avec énormément de plaisir, précisément parce qu'il s'agit de nouveaux signes, et qu'ensuite on a ce plaisir extraordinaire de les décoder sur des monuments anciens, par exemple. Mais il y a ensuite le décodage d'une nouvelle phonologie. Il y a la question des règles de grammaire qui sont parfois très différentes. Le concept même de déclinaison qui peut exister dans ces langues plus que dans la nôtre permet, je pense, de rendre visibles des concepts qui sont parfois cachés dans notre propre langue. Donc, tout ce travail qui va se produire dans le cerveau de l'enfant, on peut imaginer qu'il soit extrêmement intéressant. Et ça me fait penser à la situation du bilinguisme, qui est une situation qui est peut-être plus étudiée au niveau cérébral. Très honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de recherches sur l'impact du latin et du grec sur le cerveau de l'enfant. C'est une recherche qui resterait à faire. Par contre, on sait que le fait d'apprendre plusieurs langues a un impact extraordinairement positif sur le cerveau de l'enfant. D'abord, il a un impact littéral, biologique, c'est-à-dire que si vous examinez l'anatomie du cerveau, le cerveau des bilingues est particulièrement développé dans une région qui s'appelle le gyrus angulaire. Le gyrus angulaire.
Gyrus.
Angulaire.
Qui tourne, non?
Non, gyrus, ça veut dire un des sillons.
Je pensais au gyrophare.
Plutôt une des circonvolutions. La traduction serait circonvolution. Oui. C'est un mot latin. Cette circonvolution qui s'intéresse à certains aspects du traitement du langage se développe chez les bilingues, et d'autant plus que ce sont des bilingues précoces. Mais plus encore que la compétence linguistique elle-même, ce qui est extraordinaire chez les personnes qui maîtrisent plusieurs langues, c'est la généralisation positive à des domaines qui ne relèvent pas strictement du langage. Une personne qui maîtrise plusieurs langues, on le sait maintenant, va avoir des compétences attentionnelles différentes, et notamment une capacité de changement attentionnel rapide, efficace, et donc de changement de tâche qui est meilleur. Et on pense que c'est lié en grande partie au fait que lorsque vous maîtrisez plusieurs langues, vous devez aussi choisir quelle est la bonne langue, et passer d'une langue à l'autre très rapidement, notamment dans la question de la traduction.
Alors, je crois, les nuances, puisqu'il y a deux mots qui veulent dire bleu en russe, quatre mots qui veulent dire frère et sœur en hongrois, enfin...
Exactement, donc vous avez un problème de sélection.
Oui.
Et c'est vrai que les exercices de traduction, et peut-être particulièrement sur les langues anciennes, consistent à se concentrer très étroitement sur quelques mots pour essayer d'en trouver la quintessence du sens. Donc c'est un travail de sélection qui ensuite va se généraliser à toutes sortes d'autres compétences.
Alors précisément, vous avez parlé de l'alphabet grec. L'alphabet grec a cette différence avec les pictogrammes et les idéogrammes, comme chacun sait. que ce ne sont pas des images, que ce sont des alphabets analytiques, je crois, dit-on. Enfin, c'est-à-dire, ce sont des lettres qui seulement, si on les réunit, veulent dire quelque chose. Ce n'est pas des images. Or, nous sommes bombardés d'images. Nos enfants maintenant sont dans un monde totalement d'images, de sons aussi. Est-ce que nous sommes parmi des mutants? Et est-ce que le latin grec, finalement, qui sont bien sûr du bilinguisme, mais qui aussi demandent beaucoup de temps et d'analyse de structure de la langue, qui donc relève peut-être d'autres zones que l'immédiat bilinguisme, est-ce que ce n'est pas une manière de raisonner, d'avoir une langue du raisonnement, de la logique? Puisque, après tout, ce sont les Grecs qui nous ont donné les sciences et les techniques, l'exploration du monde. Et est-ce que c'est pas une manière de contrecarrer les images, le faisceau d'images et nos petits mutants qui sont très émotifs aujourd'hui?
Enfin, vous savez, moi, je suis un scientifique et avant toute chose, je souhaiterais avoir la connaissance la plus objective possible de l'environnement auquel sont effectivement soumis nos enfants. Je ne suis pas du tout persuadé qu'il y ait une prépondérance de l'image. J'aimerais beaucoup avoir ces données ou peut-être avec une petite caméra, on suivrait exactement ce que reçoit l'œil d'un bambin. Et je crois qu'on verrait que sur Internet ou à la télévision, qui d'ailleurs est en grande diminution, il y a énormément d'écrits. Alors, l'écrit continue d'être présent dans l'environnement de nos enfants.
Mais l'écrit comme image. L'écrit comme image sur un écran.
Que l'écrit soit sur un écran ou qu'il soit sur une feuille de papier, ça ne change rigoureusement rien sur le plan cérébral. C'est toujours des marques contrastées en noir sur fond blanc.
Alors, pour reprendre une expérience scientifique qui vient d'être menée et qui a été répandue justement par la télévision, il y a la fameuse histoire des chimpanzés japonais, là, que nous venons d'apprendre au Japon, dans une université japonaise. On a fait un concours entre des chimpanzés qui regardent sur un écran des chiffres jusqu'à 10, qui doivent très vite poser leurs doigts sur dans l'ordre, évidemment. Puis on les remplace par des carrés blancs, et puis il faut qu'ils retrouvent la place. Et ce sont les étudiants qui ont perdu, puisqu'il y a 40% ils sont arrivés, alors que les chimpanzés y arrivent. Ah, 70%.
Oui, je connais cette expérience qui est celle de notre collègue Matsuzawa qui travaille depuis des années sur l'apprentissage des symboles chez le chimpanzé et aussi chez le singe macaque. Ce que ces expériences montrent, c'est que effectivement le cerveau des primates, le nôtre y compris, est capable d'apprendre des symboles. Et dans la mesure où ces animaux ne font pratiquement que ça pendant des heures d'apprentissage, ils développent des compétences extrêmement rapides. Et vous savez, la rapidité est une chose, elle dépend en partie de la taille du cerveau. Un cerveau plus petit va plus vite parce que les distances à parcourir sont plus courtes. Oui, c'est très facile à comprendre. Ça ne veut pas forcément dire que l'animal est supérieur à l'homme. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et la flexibilité de l'homme dans ce domaine est absolument inégalée.
Non, ce qu'il disait, c'est que précisément, l'homme a l'apprentissage de la langue qui prend la place, finalement, de certaines réactions. Mais quand je vous parlais des changements de connexion, est-ce que, oui ou non, scientifiquement, on observe des changements dans le cerveau humain depuis qu'on l'étudie?
On peut être tout à fait clair là-dessus. La lecture modifie radicalement les réponses du cerveau et l'organisation du cerveau. Donc le fait d'apprendre à lire une langue déjà, la sienne, ça a un impact absolument crucial sur l'organisation anatomique du cerveau et en retour sur des compétences parfois distantes. Par exemple, la mémoire verbale est considérablement modifiée dans un sens positif, c'est-à-dire que on est capable de mémoriser beaucoup plus d'informations lorsqu'on a appris à lire que une personne qui serait restée analphabète, tout simplement illettrée.
Et est-ce que le sens de l'étymologie, puisque c'est ça le grec et le latin, c'est quand même, on évince de notre conversation que c'est notre culture. Donc, est-ce que dans le cerveau, quand on a fait de la mémoire table rase, est-ce qu'il y a les mêmes connexions? C'est une question.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la morphologie des mots joue un rôle essentiel dans la lecture du français. à des niveaux qui ne sont pas nécessairement conscients. Notre cerveau extrait les préfixes, les suffixes, et il le fait y compris lorsque ça n'est pas adapté. Par exemple, pour le mot repère, par exemple, eh bien le préfixe re, plutôt les lettres re qui ne sont pas un préfixe dans ce cas-là, sont quand même traitées par notre cerveau comme un préfixe. Donc ce sont des activités extrêmement automatiques qui sont faites en deçà de notre conscience par notre cerveau. Alors effectivement, est-ce que un enfant qui a appris ce que signifient ses racines, d'où elles proviennent, quelle peut être leur histoire latine ou grecque ou autre, est-ce qu'un enfant lit mieux? C'est probable. En tout cas, c'est probable qu'il parvient mieux à lire des mots nouveaux, des mots scientifiques, des mots...
Mais scientifiquement, on ne peut pas le voir. Scientifiquement,
non, je pense
qu'on
serait capable de le voir. Et ce sont des expériences qui seraient vraiment intéressantes de mener.
Et pourquoi ne les cherche-t-on pas?
Ce serait une expérience un petit peu originale, effectivement, de prendre une classe qui a fait du latin grec et de la comparer à une classe qui n'aurait fait que l'apprentissage du français et de l'anglais, par exemple. À ma connaissance, l'expérience n'existe pas, mais elle n'est pas du tout infaisable.
Pour l'enseignement, ça serait peut-être intéressant. Merci Stanislas Dehaene.